Bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle Olivier, effectivement, et je suis de l'église de la Boissière. Voilà, et j'étais invité par Jean-Paul. Ce qui vous fera un sujet de reconnaissance, c'est que quand je m'arrêterai, vous serez reconnaissant que ce soit fini, probablement. Voilà, bienvenue à tout le monde. Je vous invite à être bienvenue chez vous, hein, puisque c'est votre église. Mais voilà, on est vraiment entre frères et sœurs, et je suis content d'être parmi vous ce matin pour partager la parole, et je vous invite à prier avant de commencer. Oui, Père, je te prie pour que ce soit vraiment ta parole qui soit dans ma bouche ce matin, que tu puisses nous parler à chacun. Et moi, tu le fais déjà quand je prépare aussi ce message, tu l'as déjà fait de me parler, de parler à mon cœur, Seigneur, et que vraiment nous soyons à ton écoute, que nos oreilles soient disposées à entendre ta parole et nos cœurs à la recevoir. Amen. Alors ce matin, je vous invite déjà à ouvrir vos Bibles avant tout. Alors moi, je lis dans la version du Semeur, dans Jean chapitre 6. Et je vais parler, pas directement de reconnaissance, mais à la fois de source, mais aussi de conditions à la reconnaissance. Donc dans Jean chapitre 6, et je vais commencer de lire au verset 51, et je lirai jusqu'à la fin du chapitre. Donc Jean 6, verset 51. À 71, et je lis dans la version du Semeur. Ça tombe bien, juste après la Sainte Cène, c'est un bon passage. C'est moi qui suis le pain vivant descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain-là, il vivra éternellement. Le pain que je donnerai pour que le monde vive, c'est mon propre corps. À ces mots, les Juifs se mirent à discuter vivement entre eux, disant « Comment cet homme pourrait-il nous donner son corps à manger ?» Alors Jésus leur dit, « Oui, vraiment, je vous l'assure, si vous ne mangez pas la chair du Fils de l'homme, et si vous ne buvez pas son sang, vous n'aurez point la vie en vous. Celui qui se nourrit de ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle, et moi je le ressusciterai au dernier jour. Car ma chair est vraiment une nourriture, et mon sang est vraiment un breuvage. Celui qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi, et moi je demeure en lui. » Le Père qui m'a envoyé à la vie en lui-même, et c'est lui qui me fait vivre. Ainsi, celui qui se nourrit de moi vivra lui aussi par moi. C'est ici le pain descendu du ciel. Il n'est pas comme celui que vos ancêtres ont mangé, eux ils sont morts, mais celui qui mange ce pain-là vivra pour toujours. Voilà ce que déclare Jésus lorsqu'il enseigna dans la synagogue de Capernaum. Après l'avoir entendu plusieurs de ses disciples dire « Ce langage est bien difficile à accepter. Qui peut continuer à l'écouter ?» Jésus savait fort bien quel murmure ces paroles avaient soulevé parmi eux. C'est pourquoi il leur dit « Cela vous choque-t-il ? Et si vous voyez le Fils de l'homme remonter là où il était auparavant ? C'est l'Esprit qui donne la vie. L'homme n'aboutit à rien par lui-même. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Hélas, il y en a parmi vous qui ne croient pas. En effet, dès le début, Jésus savait quels étaient ceux qui ne croyaient pas et qui était celui qui allait le trahir. Aussi ajouta-t-il, « C'est bien pour cela que je vous ai dit, personne ne peut venir à moi si cela ne lui est accordé par le Père. » À partir de ce moment-là, beaucoup de ses disciples l'abandonnèrent et cessèrent de l'accompagner. Alors Jésus, se tournant vers les 12, leur demanda, « Et vous ?» Ne voulez-vous pas aussi partir ? Mais Simon-Pierre lui dit, « Seigneur, vers qui irions-nous ? Tu as les paroles de la vie éternelle. Nous, nous avons mis toute notre confiance en toi, et nous savons que tu es le Saint envoyé de Dieu. » N'est-ce pas moi qui vous ai choisi tous les 12 ? Reprit Jésus. Et pourtant, l'un de vous est un diable. Par ces mots, il désignait Judas, fils de Simon Iscariote, l'un des 12 qui allait le trahir. Le contexte de ce passage, plusieurs personnes sont réunies dans la synagogue de Capernaum. La synagogue, c'est l'église de l'époque, forcément. Ils étaient là pour écouter Jésus. Un peu comme vous ce matin, vous êtes là, sauf que c'est pas moi que vous écoutez, c'est pas directement Jésus, même si j'espère qu'il parle à travers moi. Bref, ils sont dans une bonne démarche. Ils sont venus écouter la parole. Nous avons l'Église, nous aussi, comme endroit pour remercier Dieu, exprimer notre reconnaissance avec nos frères, nos sœurs dans la foi, pour chanter aussi les louanges pour recevoir de l'enseignement, pour partager, pour communier. Le psaume 131 nous dit « Oh, quel plaisir c'est pour des frères et quel bonheur que d'être ensemble !» Mais qui sont ces gens qui sont réunis? Si on revient un petit peu en arrière, avant même au début de ce chapitre-là, il est fort probable qu'une partie des personnes réunies dans la synagogue soient les gens qui sont issus de la foule qui a été nourrie quand Jésus a multiplié les 5 pains et les 2 poissons. Chacun, c'est dans Jean, donc même chapitre, hein, au verset 11, chacun avait pu manger autant qu'il le voulait. Chacun avait vu qu'il en restait en plus. Après un tel miracle, c'était sûr pour tous ces gens-là, Jésus était extraordinaire et enfin les choses allaient changer. Jean 6, 14, lorsque tous ces gens-là virent le signe miraculeux de Jésus, ils s'écrièrent « Pas de doute, cet homme est vraiment le prophète qui devait venir dans le monde. » Le verset 15 nous dit même qu'il voulait l'enlever pour le faire roi. Mais Jésus se sauve. Jésus ne veut pas être roi là et il se sauve. Pas grave, ils sont motivés. Il y en a plusieurs qui vont prendre des barques, qui vont traverser la mer de Galilée en partant de Tibériade pour aller jusqu'à Capernaum, il y a environ 15 kilomètres. Pourquoi ? Parce qu'ils voulaient voir Jésus. Comme vous ce matin, peut-être vous avez pris le tram pour venir. Moi j'ai même traversé la Loire. Ouh, quel voyage périlleux. Bon, ça va, heureusement il y a des ponts. Vous vous êtes certainement levé tôt, ou en tout cas plus tôt que nombre de vos voisins. Quelle motivation ? Oui d'ailleurs, quelle motivation ? Jésus sait où il va en venir. Il sait que la foule n'est pas prête. Toute la foule n'est pas prête à entendre ce qu'il va dire. Au verset 26, Jésus qui parle et qui dit « Vraiment, je vous l'assure, si vous me cherchez, ce n'est pas parce que vous avez compris le sens de mes signes miraculeux, non, c'est parce que vous avez mangé du pain et que vous avez été rassasié. » Jésus, il est souvent dur. Hein. La reconnaissance, ces gens sont là parce qu'ils ont eu à manger. Ils sont là par reconnaissance, certes, mais par reconnaissance du ventre. Est-ce que toi, tu es là ce matin parce que tu as besoin d'une bénédiction particulière? Ou est-ce que tu es venu pour louer Dieu par reconnaissance, quelles que soient les circonstances? Et attention, Jésus ne dit pas qu'ils sont là parce qu'ils ont vu un miracle. Ils sont là parce qu'ils en ont bénéficié. Est-ce que moi je fais partie de ce genre de disciples qui viennent à Jésus, qui cherchent sa présence uniquement dans les moments difficiles, ou quand j'ai un besoin, quand j'ai une difficulté à résoudre, quand j'ai un problème de santé? Ou est-ce que je viens à lui parce que je l'aime, que je désire apporter ma reconnaissance sincère, qui ne dépend pas des circonstances? Il y a un indice. Il y a un indice qui est intéressant d'examiner, c'est repensons à nos moments de prière. Est-ce que mes prières sont plutôt une liste de demandes ou est-ce que c'est une liste de sujets de reconnaissance? Est-ce que dans mes prières, c'est Dieu qui est à ma disposition ou est-ce que c'est moi qui me place à sa disposition? Pour l'auditoire de Jésus, c'est pas forcément grave à ce stade. C'est quand même formidable. La synagogue est pleine de gens qui sont intéressés par Jésus, qui veut le voir, qui veut l'écouter, alors Jésus va pouvoir passer aux choses sérieuses. Et c'est ce qu'il veut aussi pour nous, c'est passer aux choses sérieuses. Et quand Jésus passe aux choses sérieuses, c'est toujours désarçonnant. Jésus aime bien prendre tout à contre-courant de nos pensées, de là où on en est dans nos vies. Au verset 35, Jésus leur dit « C'est moi qui suis le pain qui donne la vie ». Celui qui vient à moi n'aura plus jamais faim, celui qui croit en moi n'aura plus jamais soif. Verset 53, je vous l'assure, si vous ne mangez pas la chair du Fils de l'homme et si vous ne buvez pas son sang, vous n'aurez point la vie en vous. Difficile pour l'auditoire. Et la réaction ne se fait pas attendre. Hein. Au verset 60, on l'a lu tout à l'heure. Après l'avoir entendu plusieurs de ses disciples dire, ce langage est bien difficile à accepter, qui peut continuer à l'écouter ? Ces gens sont venus voir, sont venus écouter un Jésus qui parle bien, un Jésus qui attire des foules, Un Jésus qui fait des miracles, et en plus des miracles qui se mangent. Quel bonheur! Mais Jésus n'est pas venu que pour ça, il est venu aussi pour être quelqu'un de spirituel. Il est venu pour des besoins spirituels. Et pour les disciples, la Bible nous dit que c'est des disciples qui sont dans la synagogue. C'est des gens qui sont venus l'écouter, qui le suivent. Pour eux, Jésus fait partie du quotidien. Et on a envie de se dire c'est une bonne chose, mais non, parce que c'est vraiment le quotidien dans le mauvais sens du terme. C'est-à-dire qu'il fait partie du décor. Jésus, il est autour d'eux, il enseigne, il nourrit. Chose certainement jubilatoire pour tout un tas de monde. En plus, il recadre les pharisiens de temps en temps. Ça doit bien faire plaisir à tout le monde. Il a de l'autorité, il a du bon sens, au point que tout le monde, tous les gens qui étaient là, voulaient en faire un roi. Mais tout d'un coup, Jésus commence à leur dire des choses complètement délirantes. Il parle de manger sa chair, de boire son sang. Bien sûr, c'est pas littéral, c'est une dimension spirituelle. Et en fait, Jésus qui était concret, qui était quotidien, est en train de devenir, pour eux, il est en train de devenir tout simplement Dieu. Il est en train de devenir Dieu, il ne peut plus être juste un sauveur terrestre, le futur roi. Et voilà le sens de ces paroles, au verset 62. « Et si vous voyez le Fils de l'homme remonter là où il était auparavant, c'est l'Esprit qui donne la vie, l'homme n'aboutit à rien par lui-même. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. » Voir Jésus remonter au ciel, c'est forcément reconnaître sa divinité. C'est tout d'un coup se rendre compte que, bah oui, c'est de là qu'il vient. C'est pas juste un homme qui fait des miracles. Mais c'est aussi quelque chose de plus dur, parce que ça veut dire pour les gens qui sont là, abandonner l'espoir immédiat d'avoir un roi, d'avoir à manger, pour avoir un espoir qui lui va être définitif, mais qui n'est pas forcément pour cette vie-là. Les pains, les poissons, c'est vivre un jour, c'est manger aujourd'hui. Mais Jésus leur propose l'esprit, leur propose le salut et la vie, l'éternité. Et comme il n'est pas vu comme Dieu par beaucoup, il n'est pas vu comme divin, dès qu'il commence à parler de ça, c'est dur, c'est trop dur, c'est même décevant. Est-ce que c'est pas aussi parfois notre réaction ? On parle à Dieu de nourriture, on parle à Dieu de logement, on parle à Dieu de travail, on parle à Dieu de santé. Et parfois, Dieu répond, et il l'a répondu à des gens qui étaient bien plus avancés spirituellement, certainement que vous et moi, des fois il leur répond, « Ma grâce te suffit. » Il leur répond, « Ben, tant pis, ma grâce te suffit. Ma grâce te suffit, c'est la vie éternelle te suffit. Tu seras avec moi pour l'éternité. » Aujourd'hui, tu n'as peut-être pas à manger, tu n'as peut-être pas le logement, tu n'as peut-être pas de travail, tu n'as peut-être pas la santé. Ma grâce te suffit. Ça, c'est dur. Ça, c'est dur. Et c'est décevant. C'est décevant parce qu'on ne peut pas mettre une pièce dans la machine Jésus et il tombe la bénédiction. Les gens qui sont là, ce langage est bien difficile à accepter. Qui peut continuer à l'écouter? Et ça pose la question de la nature et de l'origine de notre reconnaissance. Cette origine, est-ce qu'elle est matérielle ou est-ce qu'elle est spirituelle? Est-ce qu'on est reconnaissant parce qu'on a un toit, parce qu'on a de la nourriture, ou est-ce qu'on est d'abord reconnaissant pour le salut? C'est facile pour moi d'être reconnaissant pour plein de choses. Est-ce que je suis vraiment reconnaissant pour le salut avant tout? Est-ce que si demain je perds ma santé, je perds mon travail, je perds ma famille, est-ce que je suis toujours reconnaissant pour le salut? La clé est dans la dimension spirituelle. Verset 63, c'est l'esprit qui donne la vie. L'homme n'aboutit à rien par lui-même. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Les paroles de Jésus sont souvent dures parce qu'à chaque fois, Jésus propose une rupture de vie, une rupture de pensée dans nos vies. Je dirais même que ces paroles imposent une rupture. Une rupture, dans le cas concret présent, parce qu'on passe du matériel du quotidien au spirituel et à l'éternité. Et le Saint-Esprit est indispensable pour nous révéler ces choses, pour révéler ces choses dans nos vies. 1 Corinthiens 2, verset 12. Or nous, nous avons reçu, non l'Esprit du monde, mais l'Esprit même qui vient de Dieu pour que nous comprenions tous les bienfaits que Dieu nous a accordés par grâce. Et nous en parlons non avec les termes qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux qu'enseigne l'Esprit. Ainsi, nous exposons les réalités spirituelles dans des termes inspirés par l'Esprit. Mais l'homme, livré à lui-même, ne reçoit pas ce qui vient de l'Esprit de Dieu. À ses yeux, c'est pure folie, et il est incapable de le comprendre, car seul l'Esprit de Dieu permet d'en juger. Je ne nie pas, moi non plus, que ces paroles soient dures. Et je comprends les gens qui étaient là, et peut-être vous ce matin. Ces paroles sont dures, mais la réalité humaine est qu'on ne trouve pas toujours que les paroles de Dieu et toutes les paroles de Dieu soient géniales. Peut-être que ça vous choque, mais honnêtement et sincèrement, trouvez-vous que tous les versets de la Bible sont géniaux ? Est-ce qu'il n'y en a pas un ou deux, un demi, un petit bout, avec lequel on a envie de transiger ? On a envie de se dire, oh, quand même, celui-là, c'est pas vraiment pour moi. Si c'est le cas, c'est rassurant, ça veut dire que vous êtes pécheur. Et la Bible le dit, hein, celui qui se déclare sans péché, vous connaissez la suite. Mais que faire et comment vivre avec ça ? La réponse se trouve aussi dans la parabole du semeur. Tout dépend de notre attitude face aux paroles de Dieu qui nous embêtent. Sommes-nous disposés, au moins disposés à les recevoir ? En réfléchissant à ça, vous savez, cette parabole du semeur, où on sème, la parole est semée dans plusieurs types de terrains, dans de la bonne terre, dans des ronces, dans des pierres, etc. Quoi qu'il se passe, dans tous les cas, même dans la bonne terre, vous pouvez essayer, jeter des graines, le lendemain, vous n'avez pas des épis de blé qui sont grands comme ça. Même dans la bonne terre, il faut du temps pour que ça pousse, pour que ça s'enracine. Par contre, la bonne terre accueille les graines. Et elles vont mettre du temps, les graines, à produire du fruit. Être une bonne terre, c'est être disposé, c'est notre manière de dire, « Ok, c'est peut-être dur, mais je reçois. Il va me falloir du temps. Seigneur, il va me falloir du temps. Il me faudra l'arrosage par le Saint-Esprit, mais je ne rejette pas, même si je ne sais pas quoi en faire aujourd'hui. » Même si c'est trop dur. Et parfois, on ne sait pas quoi faire de ce qu'on reçoit aujourd'hui. Parfois, on n'a pas envie de le recevoir. Mais quand je suis reconnaissant, quand je reçois une parole qui est dure, est-ce que je suis disposé ? Est-ce que je suis reconnaissant pour cette parole ? Ou est-ce que je suis irrité et que je la rejette ? Revenons à ce passage. Au verset 66, à partir de ce moment-là, beaucoup de ses disciples l'abandonnèrent et cessèrent de l'accompagner. Il s'agit bien de disciples. Ce n'était pas de vagues sympathisants, ce n'était pas des gens qui étaient là pour voir ce qui pouvait se passer. La Bible nous dit que c'était des disciples, donc des gens qui suivaient Jésus. On parle de gens qui sont venus spécialement le voir à cet endroit-là. La Bible parle bien de nous. Elle parle bien de nous, chrétiens, de gens qui suivent de plus ou moins près Jésus. On parle de vous qui êtes venus ici ce matin. Qui s'est déjà dit en écoutant un message, en lisant la Bible, « Oui, vraiment, cette parole est dure. Qui peut l'écouter ? Pourquoi est-ce que je devrais encore supporter longtemps cette parole qui me dérange, qui m'agace ? Pourquoi ne pas accompagner ceux qui se retirent de sa présence. Il n'y a pas de mal à se poser cette question, au contraire, elle est légitime. On doit se la poser, et après on doit y répondre. Pourquoi est-ce que je dis qu'on doit se la poser ? Parce que Jésus la pose. Jésus se tourne même vers ses 12 disciples, ceux qu'il a choisis, pour l'accompagner au plus près, pour être les témoins de la suite. Il se tourne vers eux et leur demande, « Et vous ?» Ne voulez-vous pas aussi partir ? Et c'est Simon qui répond, Simon Pierre lui répond, vers qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Alors je vais vous proposer ma propre traduction de ce passage. Rassurez-vous, je ne traduis pas l'hébreu ni le grec directement. Mais quand même, et ça pourrait donner, alors Jésus se tourna vers l'église de l'Hérodière, leur demanda, et toi, ne veux-tu pas aussi partir? Moi j'aime la réponse de Pierre. Et cette réponse, j'ai envie de la garder comme une pierre blanche dans ma vie. Parce que des fois, et je vous pose la question, est-ce que vous êtes découragé? Est-ce que parfois vous êtes fatigué? Est-ce que des fois vous avez envie de tout plaquer? Parce que vous êtes incapable d'obéir? Parce que vous êtes incapable de recevoir cette parole? Moi, je vous assure, ça m'arrive. Pierre lui-même va renier Jésus. Peu de temps après. Il va passer par des moments extrêmement difficiles. On peut imaginer, quand Pierre va renier, va dire qu'il ne connaît pas Jésus, combien il a dû douter, combien il a dû être remué, combien il s'est senti minable. Mais j'aime sa réponse parce que sa réponse, elle est toute simple. Elle est vers qui irions-nous? Vers qui irait-il? Pierre juste sait que Jésus est le chemin, que Jésus est le sauveur, qu'il est le fils de Dieu, qu'il est son salut. Moi aussi j'ai cette certitude profondément ancrée. Vers qui irai-je d'autre? Et toi, quelle est ta certitude? Je reconnais mon incapacité, je reconnais mes difficultés, mais je reconnais aussi que le seul chemin, c'est Jésus. Jésus propose ici de marcher par la foi, la seule possibilité de recevoir ses paroles. Et ces personnes qui sont présentes avec lui ont eu de la chance, parce que ce jour-là, elles ont eu cette question et qu'elles ont dû faire un choix, s'en aller ou rester. Mais le fond de la question est, veux-tu me suivre ou non? Veux-tu me suivre parce que je fais des miracles? Parce que je suis amour? Parce que c'est cool? Non, me suivre parce que même quand c'est dur, quand mes paroles sont dures, tu restes attaché. Et c'est cette question que Jésus veut nous poser. Quelles sont les paroles qui sont dures pour vous? Qu'est-ce que tu fais dans ta vie qui est contraire à la volonté de Dieu? Et pour quelle raison? Est-ce que c'est parce que cette chose-là est beaucoup trop attractive et que tu ne peux pas y renoncer? Des choses insignifiantes? Je ne sais pas, se nourrir de la presse People, par exemple, qui nous montre toutes les choses qui ne sont pas en accord avec la parole de Dieu, et s'en nourrir chaque jour. Peut-être est-ce parce que vous en êtes convaincu, ce verset-là, là, juste celui-là, le reste ça va, mais celui-là, il ne s'applique pas du tout à ma vie. Peut-être parce que, par exemple, toi tu sais que tu n'as pas besoin du baptême. Peut-être que toi, tu sais que ton couple n'a pas besoin d'être officiel. Peut-être que toi, tu sais que frauder les impôts, frauder le tram, c'est pas vraiment, vraiment voler. On est d'accord? Peut-être parce que tu veux pas te distinguer des autres. Après tout, est-ce que l'homosexualité est vraiment contre la volonté de Dieu? Après tout, j'aime bien dire du mal de mon collègue, là. Surtout quand tout le monde en dit, ils ont raison quand même. Alors pourquoi ne pas apporter ma pierre à ce moment-là? Peut-être parce que tu ne veux pas non plus dire aux gens autour de toi qui est Dieu pour toi. Ça aussi, c'est une désobéissance. Alors Jésus, se tournant vers l'église de l'Hérodière, leur demanda, « Et toi, ne veux-tu pas aussi partir ?» L'épreuve que Jésus vous propose, et qu'il nous propose à tous ceux qui veulent le suivre, c'est celle de la consécration. On ne peut pas vivre avec un Jésus qui est à nos côtés, mais en y regardant de plus près, on se rend compte que ce n'est pas le vrai Jésus qui est avec nous. Ce n'est pas celui que la Bible nous présente. Ce n'est pas celui qui a les mêmes exigences que son Père, la même sainteté, le même amour. Jamais, jamais Jésus ne sortira de la parole de Dieu pour se compromettre avec le monde. Quel est le Jésus qui t'accompagne sur le chemin de la vie? Est-ce que c'est un Jésus conciliant, qui ferme les yeux une fois de temps en temps, qui ferme les yeux tous les jours, sauf le dimanche, ou au moins le dimanche matin? Est-ce que c'est un Jésus qui est conciliant et qui tolère qu'on vive une vie dite chrétienne, mais sans suivre ce que dit la parole? Est-ce que c'est un Jésus qui est silencieux, qui surtout te dérange jamais, te reprend jamais pour pas perturber ta conscience? Ou est-ce que c'est le Jésus qui met le doigt là où ça fait mal et qui dit « Ah, là, tu sais ce que j'en pense ?» Répondons à cette question. Et toi, ne veux-tu pas aussi partir? Et je vous encourage à suivre Jésus et le Jésus de la Bible. Consacrez-nous parce que la Bible dit en Matthieu 7, 22, « Au jour du jugement, nombreux sont ceux qui me diront « Seigneur, Seigneur, nous avons prophétisé en ton nom, nous avons chassé des démons en ton nom, nous avons fait beaucoup de miracles en ton nom. » Je leur déclarerai alors « Je ne vous ai jamais connus. » Allez-vous-en, vous qui pratiquez le mal. C'est pourquoi celui qui écoute ce que je dis et qui l'applique ressemble à un homme sensé qui a bâti sa maison sur le roc. Et toi, ne veux-tu pas aussi partir? J'aime cette réponse de Pierre, parce qu'il lui dit pas « Non, non, ça va, c'est cool, j'aime bien te suivre. Puis en plus, j'arrive super bien, c'est trop facile. » Pierre lui dit, « Mais vers qui irions-nous? Parce que c'est toi qui as les paroles de la vie éternelle. Nous avons mis toute notre confiance en toi et nous savons que tu es le Saint envoyé de Dieu. » Peut-être vous pensez que pour certains chrétiens, c'est facile. C'est toujours facile. Peut-être que vous pensez que pour les responsables de cette église, c'est super facile. Toutes les paroles de la Bible sont super faciles. Tout ce que Jésus leur demande est super facile. Je peux vous l'assurer, c'est faux. Tout n'est pas toujours facile. Chacun a des choses difficiles à accepter pour lui-même. Mais vers qui d'autre irions-nous? Une des facettes de la reconnaissance parce que Jésus est mort pour nous, c'est de nous transformer petit à petit à devenir cette bonne terre qui est toujours prête à recevoir, même quand c'est difficile. Quand c'est dur dans notre quotidien, rappelons-nous à chaque fois, cette base, mais vers qui irions-nous d'autres? Seule cette assurance nous permet de suivre Jésus dans des détails, d'accepter des choses qui nous paraissent difficiles. Si on n'a pas cette assurance, au pire, on peut devenir légaliste. Mais c'est la foi qui permet la consécration, qui permet la vie par l'Esprit. La consécration, c'est s'attacher à Dieu et pas à des signes. Pour terminer, je vous laisse ce verset, Jean 6, verset 63. On l'a lu dans le passage. C'est l'Esprit qui donne la vie. L'homme n'aboutit à rien par lui-même. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Amen.